Face à la souffrance, l'indifférence n'est pas une option. L'humanitaire n'est pas une question lointaine, c'est une responsabilité que nous partageons tous. C'est par ces mots que nous vous souhaitons la bienvenue, fidèles auditeurs. Nous sommes ravis de vous savoir très nombreux à l'écoute de votre programme préféré du week-end, l'émission humanitaire des studios Tamani, Faboudirène. Faboudirène, c'est cet espace que nous consacrons aux personnes déplacées internes. Nous vous invitons dans leur quotidien à travers des magazines et des reportages. Un quotidien qui est souvent pénible, un quotidien dans lequel trouver un repas relève parfois du parcours du combattant. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui Eid el-Fitr ou encore la fête de Ramadan et pour l'occasion, nous nous intéressons à l'organisation et l'ambiance de cette fête du côté des sites des déplacés. Une fête qui intervient pendant que des milliers de personnes sont loin de chez elles et avec des moyens très limités. Des personnes de bonne volonté des ONG apportent de l'aide pour la circonstance. Des appuis multiformes qui soulagent les déplacés internes pendant cette fête de Ramadan. Et nous avons juste fait appel à une organisation qui milite dans ce sens. Il s'agit de l'ONG Solidaris 223. Nous avons son secrétaire général avec nous sur ce plateau en la personne de M. Halashimega. Faboudirène, c'est aussi des rubriques ludiques et informatives. Adjaratou Traoré est à la technique. Présentation, Lala Diara Touré. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci une fois de plus de suivre Studio Tamani sur les antennes de nos radios partenaires. Je viens de l'annoncer en début d'émission. Nous parlons des difficultés que les personnes déplacées internes rencontrent pour ce grand jour. Au Mali, les femmes déplacées internes s'affairent aux préparatifs de la fête de Ramadan sur les différents sites. Leur priorité est de se faire belle, de s'assurer du bien-être d'elles et de leurs enfants. La plupart affirment effectuer ces préparatifs avec des moyens assez limités. Elles lancent donc un appel aux autorités et aux ONG ainsi qu'aux personnes de bonne volonté pour les aider à célébrer la fête dans des conditions plus favorables. Un magazine signé Khalifa Goïta avec l'appui de nos correspondants de Banyangara, Gundam, Mopti et Ségou.
Il était 9h50 ce mercredi, à moins d'une semaine de la fête, lorsque nous entrions dans la cour du centre mobilier de Sogonuko où loge des personnes déplacées internes. Visiblement, c'était bon réveil chez les uns et les autres. Des enfants jouent ça et là. Des femmes en groupe pratiquent le henné traditionnel sur les mains et les pieds. En même temps, un homme d'environ 40 ans, dans un autre coin, ramasse des ordures pour les mettre dans une poubelle. Il nous explique en ces termes, c'est bientôt la fête, il faut que tout soit propre pour bien fêter. Teddy Barry, responsable des femmes déplacées, affirme qu'une bonne volonté a déjà fait le premier pas pour l'air préparatif de Ramadan. Les femmes vont formuler des prières pour le retour de la paix au Mali, rassure-t-elle.
À l'approche de chaque fête, nous, parents, nous sommes tous inquiets. Des gens sont passés ici. Ils étaient venus coiffer et tresser nos enfants. Ça m'a beaucoup plu. Ils nous ont dit que c'était l'initiative d'un de leurs proches à l'étranger. Ils nous ont promis de revenir donner des habits et des chaussures aux enfants. Nous, les femmes, le plus important, c'est d'avoir les prix des condiments. Habituellement, des particuliers viennent nous donner des habits. On fonde notre espoir sur ces particuliers cette année également. Le jour de la fête, nous allons prier ensemble et faire des bénédictions pour le pays.
Halima Diko vit avec ses enfants sur le site de Barbé Plateau 2, situé à la sortie de Sévaré dans la région de Mopti. Selon elle, les femmes qui abritent ce lieu vont fêter avec les moyens du bord, car, dit-elle, elles n'ont reçu aucune aide leur permettant de mieux préparer la fête de Ramadan.
Nous sommes ici, mais nous rencontrons quand même des difficultés. Malgré cela, nous avons pu coiffer et tresser nos enfants. En ce qui concerne la fête, les enfants sont prioritaires contrairement à nous, les adultes. Nous pouvons nous débrouiller avec les anciens habits. Nous n'avons pas encore eu d'aide.
Alimata Tangara et Salimata Djibo sont toutes deux des femmes déplacées à Sang. Elles attendent avec espoir de l'aide pour parfaire les préparatifs.
Je me débrouillais pour acheter des habits pour mes enfants et faire beaucoup d'autres choses. Mais cette année, je n'ai vraiment pas les moyens. Je leur ai même dit de se contenter des anciens habits. Si nous arrivons à avoir le prix des condiments, c'est l'essentiel.
On a nos frères qui sont sur les sites d'orpaillage. Ce sont eux qui nous aident dans les préparatifs de la fête. Il y a aussi les services de développement social.
C'est bien Kadia Banou qui torréfie l'oignon. C'était le mardi passé aux environs de 16h. Comprenez par là que nous avons mis le cap sur Bandiangara. Ici également vivent des personnes déplacées internes, précisément sur le site Atetebougou. Cette dame a expliqué que toutes les femmes se mobilisent pour fêter malgré leur situation difficile.
La fête de Ramadan s'approche à grands pas. On n'a rien de spécial comme préparatif. Nous allons faire tout notre possible pour fêter malgré les contextes difficiles que nous traversons.
Sur place, le service de développement social et de l'économie solidaire a vite compris l'urgence. Son directeur, Lamine Dolo, lance un appel aux partenaires pour que les femmes et leur progéniture puissent bien fêter.
Depuis quelques temps, on est en train de chercher des partenaires pour venir en aide à nos personnes déplacées internes pour qu'ils ne se sentent pas un peu épargnés de cette fête. Moi, jusqu'à présent, on n'a pas eu de partenaires pour les appuyer à fêter dignement. Mais pendant le mois de carême, il y a un petit appui que Direct Aid avait donné. Nous lançons quand même un appel aux différents partenaires, surtout les enfants se sentent à l'aise.
De Bandiangara, nous retournons dans la 4e région Ségou. Nous avons rencontré Aminata Diko au site de déplacés internes d'Atetebougou. Une part des inquiétudes pour les femmes à l'occasion de la fête du Ramadan est déjà assurée. Toutefois, elle ajoute que beaucoup reste à faire.
L'aide que nous avons reçue est constituée de 50 kg de riz pour chaque ménage, 5 litres d'huile et 10 paquets de spaghettis. On nous a dit que c'est l'ONG Al-Farouk qui a posé l'acte. Pour ce qui est de savoir si spécifiquement nos enfants ont reçu des aides, je dirais non, puisque à ce stade, ils n'ont pas d'habits pour la fête et ils ne sont pas coiffés. Nous, les parents, nous n'avons pas les moyens. Si un donateur pouvait nous aider, ça nous ferait plaisir.
Amadou Abdoulaye Touré est le porte-parole d'El Hadji Al-Farouk. Omar Aïdara, un ressortissant de Goundam résident à Bamako. Il a apporté une aide aux personnes déplacées internes de la localité. À l'occasion de cette fête, une bonne nouvelle attend cette couche vulnérable.
Il le fait dans le cadre de la solidarité pour venir en appui à ses frères, à ses sœurs qui en ont besoin. Évidemment, qui souffrent, qui ont tout laissé derrière eux. Il a apporté du vivre qui s'évalue à plus d'une tonne et demie, des petits milles, du riz, une enveloppe à chacune de ces personnes. Nous acheminons vers la fin du mois de Ramadan. Il y a beaucoup d'actions en cours qui seront exécutées d'ici la fin de ce mois de Ramadan.
Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous.
De retour dans ce studio, nous venons de suivre un magazine réalisé par notre reporter Khalifa Goïta avec l'appui de nos correspondants à Bandiangara, Goundam, Mopti et Ségou. Nous sommes avec M. Halachi Maïga, il est le secrétaire général de l'ONG Solidaris 223. M. Maïga, bonsoir et merci d'avoir accepté notre sollicitation.
Bonsoir, merci.
Alors, quelles sont vos impressions après avoir suivi ce reportage ?
Merci vraiment de nous avoir donné la parole. J'ai l'impression que quand j'écoute ces personnes parler, j'ai l'impression que c'est moi-même qui parle. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont avec moi dans le quotidien que j'ai également avec ces personnes-là. Exactement ça. Ce qu'ils disent, ça reflète tout ce que nous vivons avec eux à travers nos activités.
On a pu entendre dans ce reportage que certains sites déplacés, comparativement à d'autres, ont reçu déjà des aides. Mais déjà, parlez-nous de votre association, Solidaris 223.
Solidaris 223 est une association qui est créée en 2014, qui a célébré ses 10 ans il y a quelques mois, en mois de novembre 2024, que nous avons célébré ses 10 ans. C'est une association qui intervient partout au Mali. Partout, nous intervenons partout au Mali à travers des domaines bien spécifiques tels que l'éducation, la santé, le social, les droits de la femme et de l'enfant, essentiellement pour ne citer que ceci.
D'accord.
En termes de domaine.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour les personnes déplacées internes ?
Pour les personnes déplacées internes, disons que nous faisons beaucoup de choses et nous avons commencé à faire pour ces personnes déplacées depuis les années, depuis en 2018-2019. Depuis, en fait, ça c'est ce qui concerne l'intérieur du pays, mais Bamako c'est depuis au début de l'installation des premiers déplacés sur le qui a été repéré à l'époque sur le site de Karbal de Faladje. Donc depuis à l'époque là, nous intervenons sur le site de Faladje. Nous avons intervenu au fur et à mesure que les sites se multiplient. Nous intervenons sur ces sites-là, notamment le site de Nyamana, le site de Sinou, le site de Centre Mabilé, qui est vraiment notre fief. On est permanentement là-bas. Le site de Garbal et également ceux qui étaient au niveau de la zone de Kabbalah Est. Nous intervenons également auprès des déplacés du centre des Antigila. Les Antigila, c'est là où il y a le poste qui relève quand même du service de l'humain social de la région de Kulkulu et de Fana. Nous intervenons également auprès des déplacés de Banyagara. Et ça, c'était un peu plusieurs fois également, 2019, 2018 jusqu'à 2020.
Mais quelles sont les actions que vous menez ?
Les actions que nous menons tournent essentiellement de plusieurs activités. Nous avons les dons alimentaires que nous avons fait à Bamako et environ sur l'ensemble des sites, y compris Banyagara. Nous avons également les opérations de campagne de soins que nous avons fait sur le premier site à Al-Faladje. Ensuite, nous l'avons fait au niveau du centre Mabili avec le réseau des femmes médecins du Mali. Et également, nous l'avons fait à deux grandes campagnes plusieurs fois au niveau de Banyagara. Ça, c'est essentiellement sur les sites, en dehors du fait qu'on s'était associé à d'autres organisations pour faire des activités similaires sur d'autres sites. Ça, c'est pour le terme de soins. Nous avons également un programme de distribution d'habits que nous avons fait à Zantigila, on a fait à Sinou, on a fait au niveau du centre Mabli également. Nous avons également ce qu'on appelle un programme spécifiquement pour les enfants. Et ça, nous l'avons fait au niveau du centre Mabli avec des distributions d'habits et de chaussures pour les enfants. Ça, c'est uniquement pour les enfants. Nous orientons aussi beaucoup d'autres organisations, partenaires soit qui passent par nous, pour pouvoir être sur ces sites-là. Nous avons aidé à un moment donné aussi au niveau de ceux qui sont à Kabbalah à l'installation. Quand ils étaient nouvellement revenus, là où ils étaient installés, c'est une zone qui était un peu en sentier. Donc le but était d'aider les jeunes qui étaient là à pouvoir trouver du travail sur ces sentiers-là et également les jeunes filles. Et nous avons pu également installer quelques jeunes filles pour pouvoir trouver du travail, pour désengorger un peu l'espace dans lequel ils sont. Ça, c'est entre autres. Mais ces activités-là, nous le faisons essentiellement avec le service de développement social qui est son point focal au niveau de tous ces sites-là.
Absolument, une aide sur plusieurs volets, vous l'avez dit, mais est-ce que ces actions ont quelque part de l'impact? Vous avez parlé de placement de jeunes filles pour avoir du travail. Est-ce que ces actions peuvent pour autant assurer une autonomie aux personnes déplacées internes?
Absolument, absolument. Parce que comme je dis, le cas d'ici, on ne l'a pas fait à tous les niveaux, mais au niveau du Kabbalah, à l'époque où ils se sont installés, parce que ceux qui étaient venus, ils se sont installés chez un parent dans une école. Ça, c'est le tout premier départ. Donc, à ce moment, il était quand même essentiel, déjà, pour réduire les questions alimentaires, pour réduire la charge sur le monsieur en question avant que le service de l'emploi social ne prenne le relais, c'était de trouver du travail à ces gens-là. Et ceux qui travaillent arrivent déjà à se prendre en charge sur le plan nourriture. Donc, c'est vraiment, on peut dire que ça a de l'impact. Maintenant, actuellement, au niveau du centre Mabili, et comme sur les autres sites, pratiquement la plupart, quand même, surtout les jeunes, sont surtout la plupart des activités. Soit ceux qui sont chauffeurs de moto-taxi, moto-katkatani, ceux qui font le petit élevage sur place, ainsi de suite. Il y a plein, ou bien ceux qui font le petit commerce sur place.
Des femmes sont également très actives dans le recyclage.
Absolument,
absolument. Une activité qui rapporte
pas mal. Les
femmes
sont d'ailleurs la frange la plus importante par rapport aux activités génératrices de revenus.
D'accord.
Exactement sur ces sites.
Merci beaucoup, M. Maïga, pour ces premières réponses. Nous accueillons à présent nos amis Hamadi et Zabiatou. Ce soir, dans la rubrique Sketch, nous retrouvons nos amis Hamadi et Zabiatou pour cette fête de Ramadan. Zabiatou, la femme de Hamadi, est assez triste car elle n'a pas pu avoir d'habits de fête pour ses enfants, ni de viande pour préparer un bon repas. Hamadi essaie tant bien que mal de la consoler en lui disant que ses difficultés vont bientôt prendre fin. Écoutons ensemble ce sketch.
Zabiatou, tu vas finir par tout casser ici. Depuis une semaine, tu es dans ce triste état, comme si tu étais en deuil. Aujourd'hui, c'est la fête, donc personne ne doit être triste. Dis-moi maintenant, quel est le problème exactement?
Hamadi, tu es mon mari et tu connais bien les difficultés que nous rencontrons depuis que nous sommes arrivés ici.
Oui, Zabiatou, je suis au courant de ces difficultés. Mais j'ose espérer que ce ne sont pas ces problèmes qui te mettent de si mauvaise humeur. J'ai remarqué depuis 3 jours que tu te caches pour pleurer.
Je ne veux pas que tu sois affecté par ce qui me préoccupe. Parce que tu fais déjà de ton mieux pour qu'on ne manque de rien, les enfants et moi. Mais imagine que pour cette grande fête, nous n'avons pas pu avoir d'habits pour les enfants. Encore moins de la viande pour préparer un repas comme tout le monde. Tu vois que les enfants même ont passé la matinée à pleurer. Je pleure parce que cette période de fête me rappelle nos bons moments chez nous.
Zabiatou, même si je ne dis rien, sache que cette situation me prouve tout autant que toi. Tu sais aussi que là où nous étions, nous avions beaucoup de vaches et de terres cultivables. Mais on a dû partir pour éviter que les hommes armés ne nous fassent du mal.
Justement, Hamadi, pourquoi nous qui distribuons de la viande et du mil les jours de la fête, on se retrouve sans rien aujourd'hui?
Zabiatou, arrête de pleurer. Tout ça va finir bientôt. Nous sommes croyants et en tant que bons croyants, nous devons accepter les épreuves de cette vie et faire preuve de résilience.
Tu as certainement raison, Hamadi. Je vais me ressaisir.
Je préfère ça, Zabiatou. Maintenant, il faut sourire, car j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Hamadi, tu sais bien que je suis de nature impatiente. Alors, parle vite.
On vient de nous appeler pour aller prendre de la viande. C'est un généreux donateur qui a pensé à nous en ces jours de fête. Je sais que tu vas nous faire de bonnes brochettes. Tu es un vrai cordon bleu.
Franchement, je suis sans voix. Cela me prouve que le bienfait n'est jamais perdu. Je ne peux que dire merci. Merci, merci beaucoup.
Sketch assez illustratif. Oui, ils sont des milliers à avoir quitté leur localité d'origine pour trouver refuge ailleurs. Certains, comme nos amis Hamadi et Zabiatou, parviennent à se retrouver grâce à des actions émanant des personnes de bonne volonté ou encore d'organisations humanitaires. Des gestes souvent anodins pour ceux qui le font, mais suffisants pour faire naître l'espoir pour les personnes déplacées internes. Des gestes qui apportent tout simplement du réconfort. Nous donnons la parole à notre invité, M. Halachi Maïga, qui, je rappelle, est le secrétaire général de l'association Solidaris 223. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sketch que nous avons suivi à l'instant?
Le sketch est très illustratif de tout ce que vivent les personnes déplacées de façon générale. Il n'y a pas que seulement les remords par rapport aux activités de fête. Il y a un ensemble d'éléments qui constituent souvent en soi, ça vient en termes de souvenirs face aux échecs, souvent ça vient en termes de difficultés lorsqu'on est en face de difficultés. Une fois, on est arraché de son terroir. Donc ça c'est des personnes, que ce soit les moments de difficulté ou bien que seulement au moment souvent des souvenirs qu'on ressent des remords. Ça, avoir des larmes, ça, je suppose que ça arrive à ces personnes-là tout le temps. Pas seulement que face seulement aux difficultés. Lorsque tu regardes autour de toi, tu te trouves avec des personnes peut-être venant d'autres horizons où tu regardes autour de toi, tu n'as aucune référence de toi face à toi-même. Sauf que tu es là à l'étranger, on t'accueille. Des gens te donnent à manger sous forme, pour ne pas dire que tu te trouves dans une position de mendiant. Ça, à rare ceux, malgré leur pauvreté, qui chez eux le font, mendient. Ça, pour ne pas dire le terme, l'expression comme ça, qu'ils le font. Malgré de leur pauvreté, ils restent dignes chez eux. Donc aujourd'hui, c'est un contexte déplorable qui fait que ces personnes-là sont arrivées ici et c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri.
Absolument.
Ces personnes, nous ne pensons pas, il y a quelques années, qu'ils allaient se trouver dans cette situation-là.
Vous l'avez dit, une situation assez déplorable que notre pays vit depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Oui. Mais ne pensez-vous pas que les actions mieux coordonnées de l'État et de ses partenaires permettraient de donner le sourire à ces personnes en situation difficile? Car les CD déplacés, comme on l'a entendu dans le premier reportage en début d'émission, ce n'est pas qu'à Bamako.
Mm-hmm.
Ne pensez-vous pas que les actions mieux coordonnées auraient beaucoup plus d'impact?
Les actions mieux coordonnées auront de l'impact, c'est assez sûr. Les actions tout court auront de l'impact. Mais l'impact pour quel moment, pour combien de temps? Pour ces personnes-là qui sont là, certains sont déplacés depuis 10 ans, ils ne sont pas chez eux. Les conditions, c'est-à-dire que ce qui rend encore difficile, c'est que même ceux qui donnent, que ce soit de façon coordonnée, que les ONG le font avec l'appui de l'État, à un moment donné, ce qu'on donne arrive toujours à ne pas suffire. Parce que si on fait une action coordonnée, on donne pendant ce mois, on fait 3 mois, on ne donne rien, forcément, ce qu'on a donné il y a un mois, les réserves finiront par s'épuiser et ces personnes, c'est comme s'ils reviennent à la case de départ. Chaque fois que c'est des gens qui arrivent à vivre avec une main tendue, tout le monde sait que la main tendue ne permet pas à une personne de vivre dignement. Donc la solution, c'est vraiment de trouver une solution pour que ces personnes-là, en tout cas pour ceux qui sont dans des zones où la stabilité est en train de revenir, de pouvoir retourner chez eux, que l'État puisse mobiliser les partenaires, qu'on puisse trouver les cadres adéquats pour un retour progressif et un retour concerté, un retour voulu en tout cas sensibiliser les personnes à ce qu'un retour soit possible là où c'est possible.
Un accompagnement sur mesure, hein, parce que beaucoup ont perdu aussi les ressources qu'ils avaient lorsqu'ils quittaient leur localité d'origine.
Absolument.
Vous préconisez?
Aujourd'hui sur les sites, il y a des gens qui font l'élevage. Il y a des gens qui sont en train d'élever 2 ou 3 moutons, ainsi de suite, des bœufs, ainsi de suite. Sur ces sites-là, des autres élèvent des poulets, ainsi de suite. Ces personnes qui ont déjà ces pratiques-là, en fait, c'est pas qu'ils ont... Personne ne les apprend à l'élevage, mais ils faisaient ça à l'élevage, l'agriculture, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, là où le retour est possible. Là où le retour est possible, il faut forcément accompagner ces personnes-là, que l'activité qu'ils exerçaient à l'époque et qu'ils souhaitent continuer avec ces activités-là, ou ils souhaitent embrasser d'autres métiers, que l'État et ces personnes puissent les accompagner pour qu'ils puissent retourner et vivre dignement là où c'est possible.
Un cri de cœur qui, nous espérons, ne tombera pas dans les oreilles de sourds. Alors, merci, monsieur Maïga. Nous partons à présent avec la rubrique artiste invité de la semaine. Et oui, Fabou Diren, c'est aussi des rubriques ludiques, on l'a dit à l'entame de l'émission. Nous sommes allés à la rencontre de Fakoly Lézy cette semaine, un jeune artiste talentueux, il est chanteur, qui a déjà un album sur le marché. Je vous propose, chers auditeurs, que nous suivions ensemble l'entretien que nous avons eu avec lui. Bonsoir déjà. Nom d'artiste, Fakoly Lézy, mais comment s'appelle l'artiste à l'état civil?
Fakoly Lézy à l'état civil, c'est Doumbia Souri. Je suis dans ce que je fais aujourd'hui à travers, je dirais, après le talent et puis les faits de Dieu, il y a toujours un chemin à suivre. Je pense que je suis là d'abord grâce à Allah, mais via un grand frère qui fut rappeur aussi. Et j'aimais, depuis à bas âge, j'aimais la musique. J'avais cette facilité d'imiter les artistes anciens. Mais avoir le courage de me pointer sur les scènes dans les studios pour chanter, c'est après avoir vu un grand frère déjà sur scène pour rapper.
Si on posait la question à savoir quel genre de musique est-ce que Fakoly Lézy fait, qu'est-ce qu'il dirait?
Ça, c'est un peu complexe, hein? Mm-hmm. Parce que Fakoly, c'est cet artiste un peu mix, c'est cet artiste qui touche un peu à tout. Mon genre favori, d'ailleurs, le genre qui a fait que le grand public m'a connu, je dirais que c'est le mandingue. Sinon, à côté de ça, je suis un très bon rappeur, vous pouvez le sentir, vous pouvez le voir. Je fais du dancehall. C'est cet artiste mix, je dirais.
Justement, c'était la prochaine question. Quel morceau a fait vraiment connaître Fakoly Lézy du grand public?
Je pense que c'est le morceau Yarabi. Hein. Mm-hmm.
C'est ce morceau.
Mais d'où est venue l'inspiration? Parce qu'on sait généralement que les artistes, c'est soit le vécu, soit ce qu'ils ont remarqué dans leur entourage.
Cette question me revient tout le temps. À chaque plateau, les gens me posent cette question. Mais je dirais que c'est l'art qui fait ça. Parce que pour pouvoir mieux parler de quelque chose en tant qu'artiste, tu te mets dans la peau. À côté de ça, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Je dirais que j'ai été inspiré par des amis qui venaient de gauche à droite pour m'expliquer leurs relations amoureuses. Je voyais à quel point ils souffraient, je voyais à quel point ils étaient poignardés par leurs copines. Donc je me suis permis de toucher un peu à ces histoires pour faire une de ces histoires d'une chanson.
C'est ça.
Ouais.
Si on parlait album, est-ce que Fakoly Lézy a son actif aujourd'hui un album? Est-ce qu'il y a des projets futurs pour ça très bientôt?
On est d'ailleurs en pleine promotion de l'album, comme ça, mon tout premier album.
Intitulé
Clichy. Mm-hmm. L'album se nomme Clichy. On est en pleine promo de l'album, comme ça, c'est sur Empire. On le vend à 2000 francs. D'ailleurs, je profite pour inviter à tout le monde d'aller voir ce que aussi Fakoly sait faire, ce que Fakoly peut vous donner comme œuvre.
Qu'est-ce qui est dit essentiellement dans cet album?
Kire, Gwawini, Kei Bafé, Imada, Kana son Fadin Sakoyama, Kana Kengulu, et puis Djien Koukouke Ake Alakama, ni Bodon Sereja Boyku Dakabana Sou. C'est ça, en résumé, l'album. Ce que l'album projette, ce que l'album explique, ce que l'album éduque, c'est ça.
D'accord, mais on sait également que quand on met un album à la disposition du grand public, il y a des morceaux forcément qui accrochent plus que d'autres.
Justement.
Ok, quel est le morceau phare de cet album-là?
Le morceau, d'abord, personnellement, le morceau que j'ai beaucoup aimé, ça c'est le morceau Canasson. Mais émotivement, le morceau qui me touche, ça c'est la chanson que j'ai dédiée à ma mère.
Tu peux fredonner un tout petit peu?
Nebe mama mama, ne balula muso min jolina sogula. Kalo chaman de kuna, kono di min farigani funula. Sayani baluche, muso min borola ne banginina. Manyo mako jugula ne bae shindine ma, kakongo tuwala. Mama mama, je t'aime mama. Mama mama mama, I love you mama.
Wow, bravo.
Voilà, François. C'est cette chanson qui me touche émotivement.
Elle est très belle.
Ouais.
Fakoly a un message à l'endroit de toutes ces personnes déplacées qui sont aujourd'hui franchement dans des situations compliquées, difficiles, complexes.
J'ai vraiment de la peine pour eux. J'ai vraiment, vraiment de la peine pour eux en tant que Malien, en tant qu'un futur chef de famille, en tant qu'un grand frère, en tant qu'un petit frère, en tant qu'un fils. Je suis très, très touché par leur situation. C'était Djoné, quoi. C'était né. Sinon, ce que j'ai dans le cœur en ce moment pour pouvoir les aider à la débarque, donc, quoi. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire appel aux gens qui en ont vraiment le moyen de leur aider financièrement, physiquement, de faire ça.
Merci beaucoup pour ce très beau message, Fakoly Lézy. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir.
À la prochaine.
À la prochaine.
De la musique pour adoucir les mœurs, les cœurs, de la musique pour sensibiliser et inciter à faire du bien autour de soi. Voilà ce que cet art joue essentiellement comme rôle. Vous avez un commentaire, Monsieur Meiga?
Ah, la musique, on le dit, la musique adoucit les mœurs. C'est vrai que souvent, il y a beaucoup d'artistes que leurs chansons se frôlent également la prière, comme on le dit, comme certains Taïwa Djoulé Aradi. Donc l'art rejoint à tous les niveaux, quoi.
Nous parlons des difficultés des personnes déplacées internes pour cette fête de Ramadan, mais au-delà, quels sont, on va dire, les besoins pressants auxquels ces personnes sont confrontées au quotidien?
Aïe, les déplacés, là, quand ils ont tout, c'est-à-dire qu'ils ont le besoin de tout. Comme j'ai la première forme là.
Tout
est prioritaire. Quelqu'un qui n'est pas chez toi, c'est déjà un premier besoin. Il y a un besoin de retour de chez soi. Ça, c'est le premier besoin. Mm-hmm. Maintenant, là où ils vivent là, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de s'habiller. Quand j'ai dit besoin de dormir, quand tu prends une salle, je prends l'exemple du centre Mablé. Tu prends une salle de classe où il y a 4 familles, tu sens que, j'ai dit une classe, une salle de classe où c'est partagé entre 3 à 4 familles, ça déjà, ça exprime le besoin de dormir. Parce que quand tu es dans une petite salle de classe, 4-3 familles, ça veut dire qu'ils ne dorment pas bien. Il y a le besoin de s'habiller, il y a le besoin de boire. L'eau n'est pas disponible sur tous les sites. Le site du centre Mablé, que je sais beaucoup, je sais qu'ils ont fait un raccordement sur le forage du projet jeune, et le raccordement aussi est en panne. Il y a également Agicad qui a mis un forage et on m'apprend il y a 2 ou 3 jours que ce forage que Agicad a mis en place, également il y a un problème de panne. Donc du coup, au niveau du centre Mabilé, il n'y a pas d'eau. Donc je suis sûr aussi qu'il y a beaucoup de sites sur lesquels c'est les mêmes difficultés. Je sais qu'au niveau de Sénou, à l'époque, il y a un forage, mais la quantité est insuffisante parce que les besoins là-bas sont énormes. Plein de sites qui ont ces difficultés-là. Bref, ils ont besoin de tous les besoins de soins de santé. Pratiquement, quand tu regardes le nombre d'enfants sur ces sites-là, sur 95 familles, sur 95 ménages, au niveau du centre Mabilé, étais à 393 enfants, presque 400 enfants. Donc, tu te rends compte à une idée où seulement c'est surpeuplé. Donc, à ce niveau, c'est vrai que beaucoup d'ONG et le service social mettaient vraiment ceux qu'ils ont à leur niveau pour pouvoir prendre en charge les premiers cas de soins et tout. À travers, je crois, le programme ANAM. Tout ça là a été mis en place par l'État, qu'il faut vraiment remercier le ministère de la Santé pour ça, pour ce travail-là qui a été fait à ce niveau pour se soulager sur les pleins soins. Mais quand on dit soins, on dit médicaments, voilà. Donc il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels ils ont besoin d'être assistés. Et j'ai dit, beaucoup d'ONG font des choses, des personnes de façon bénévole font énormément de choses. Mm-hmm. Pour ce mois de Ramadan, il y a des personnes qui arrivent, qui apportent à dîner pour les enfants du centre Mabilé chaque soir. Oh. Ça, c'est durant tout le mois de Ramadan.
D'accord. Donc, et pour revenir à votre organisation, on sait que durant, c'est pratiquement votre quotidien d'être avec ces personnes-là. Oui. Mais quelles ont été les actions pendant ce mois de Ramadan? Vous avez fait des partages d'habits pour les enfants?
Oui. Pendant ce mois de Ramadan, on a un programme qu'on appelle Ramadan Solidaire. Mmh. Ramadan Solidaire, c'est un programme d'assistance que nous avons mis en place pour accompagner déjà de façon globale les familles vulnérables et généralement des familles de veuves. Tu sais que nous, on a un programme d'accompagnement sur les questions des droits de la femme. Donc, généralement, les femmes qu'on a accompagnées, soit des difficultés pour obtenir le certificat de divorce, soit certaines femmes veuves que nous accompagnons. Donc, nous les aidons également pendant ce mois de Ramadan avec ce programme alimentaire du mois. Il y a aussi, comme c'est un programme qui a deux phases, la deuxième phase consiste à préparer un repas qui sort un peu du cadre ordinaire des enfants qu'on choisit, soit des enfants de façon globale en difficulté, pour les servir à nourrir. Et cette année, le programme est tombé sur le centre Mablé. Donc nous avons préparé à manger suffisamment avec d'autres amis un repas qu'on a servi la nuit du mercredi pour les enfants du centre Mablé, avec viande, avec tout ce qui va avec, mm-hmm. pour pouvoir qu'ils se mettent à l'aise. Mais avant la distribution de ce plat de repas, nous avons également organisé un partage une distribution de repas d'ustensiles de cuisine, mm-hmm. avec d'autres amis que nous avons collectés, que nous avons distribués au niveau que nous avons remis au niveau du service social qui est en charge du centre Mablé. Nous avons également des amis qui nous ont collecté des habits pour enfants, adultes, draps, tout, qui en cours de préparation qu'on va également remettre au service de développement social pour les déplacer du centre Mablé. Ça, c'est par rapport aux habits de fête et tout ce qui s'ensuit.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Vous restez avec nous parce que l'émission n'est pas finie. Nous entamons à présent la dernière ligne droite de cette émission Faboudelaine. Fidèles auditeurs, nous vous rappelons que vous suivez l'émission humanitaire de Studio Tamani. Allons avec la rubrique Proverbe de la semaine. Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. C'est le proverbe de cette semaine que nous allons tenter de déchiffrer. Pour cela, nous partons dans la cité des Balanzans. Notre correspondant Mohamed Cissé a rencontré le traditionnaliste Moussa Balabalo. Écoutons ce qui ressort de cet entretien.
Cela signifie tout simplement que l'acquisition du bonheur n'est pas automatique. Cela veut dire que alors le bonheur, ça se prépare. On se met, on s'y met, on travaille pour obtenir le bonheur. Le bonheur, l'acquisition du bonheur n'est pas automatique. Donc ça vient d'un travail. Un travail qu'on fait, qu'on accomplit durant toute sa vie. On ne peut pas voir quelqu'un pour dire « Ah, lui, il est l'apparence, lui, il est dans le bonheur. » Parce que souvent, l'apparence, on dit, l'apparence est trompeuse. Donc souvent, on peut penser que celui-là est dans le bonheur alors qu'il est loin du bonheur. Donc le bonheur n'est pas automatique. On doit continuer à se battre entre le berceau et la tombe. On doit continuer à se battre pour acquérir le bonheur.
Alors, voilà qui est bien compris. Monsieur Maïga, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que notre traditionnaliste vient de dire?
Bon, comme on le dit, le bonheur, c'est... Chacun le vit à sa façon. Chacun a l'expression du bonheur. Chacun le vit en fonction d'une situation ou d'une situation donnée ou par rapport à quelque chose bien donné.
Mais en lien avec les personnes déplacées, comment est-ce que les gens qui sont dans des situations, on va dire, un peu plus aisées peuvent justement contribuer à construire leur bonheur? Par exemple, aujourd'hui, c'est la fête. Voilà, nous fêtons le Ramadan. Comment est-ce que nous autres, nous pouvons mettre la main sur le cœur pour que ces personnes-là ressentent moins, on va dire, l'impact de ce déplacement-là sur leur quotidien?
Absolument, c'est comme ce que tu dis, c'est très important parce qu'il arrive que souvent certains nous disent non, que nous, nous déplacer pour aller vers ces gens, c'est compliqué. Mais on vous met quelque chose à disposition pour que vous le faites. Vous achetez la nourriture, voilà, ou même vous achetez des vivres, vous donnez. Nous, on fait tout le programme. La même personne qui dit qu'il ne peut pas, on fait tout, on fait un programme qui s'adapte à son programme pour qu'on l'amène avec nous. Et la plupart des gens qui partent avec nous changent leur regard sur beaucoup de choses. Pour dire que souvent, quelque part, et tous nous disent qu'après, que le fait de donner, après, tu sens quelque chose, un soulagement, que eux, la plupart nous disent qu'ils ne arrivent pas à bien exprimer l'émotion qu'ils ressentent. Être en face de quelqu'un qui est dans le besoin, que tu sais que toi, tu as enlevé quelque chose pour l'aider, et pourtant, ce que tu as enlevé ne t'en dérange pas à grand-chose. Et pourtant, c'est ce qui fait le bonheur de l'autre.
Absolument. Voilà. Merci, M. Halashi Mega, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association Solidaris 223. Nous voilà à la fin de cette émission. Mais est-ce qu'il y a des aspects que nous n'avons pas évoqués, mais que les auditeurs devraient savoir?
Oui, il y en a. Et il y a un point peut-être qui me tient particulièrement à cœur, qu'au niveau de l'Action Solidariste, nous sommes en train de mûrir la réflexion, trouver la solution sur l'insalubrité sur certains sites. Et je parle spécifiquement du centre Mabilé. L'endroit est insalubre. Vraiment, l'endroit est insalubre. C'est vrai que les gens cohabitent là-bas avec moutons, avec chèvres, avec... voilà. Donc, tout ça, là, c'est des gens qui sont habitués à vivre avec les animaux. Ça, c'est pas un problème. Le problème, on peut cohabiter avec les animaux et tout dans un cadre propre. Et c'est à ce niveau, peut-être, que nous sommes en train de mener la réflexion. Également, nous allons mener la réflexion avec les responsables du service de développement social pour trouver les voies et moyens déjà de sensibiliser les gens qui vivent sur le site et également trouver les voies et moyens pour rendre l'endroit à la propre. Même s'il faut faire recours à d'autres partenaires ou il faut faire recours, comme on le dit dans notre jargon là, plaider auprès de certaines structures ou certaines ONG pour que le cadre soit propre, quoi. C'est-à-dire ça, ce n'est pas rendre un endroit propre, ça ne demande pas grand-chose. J'ai l'habitude de dire à certains sur le site que vous n'avez pas les moyens. Mais toi, tu as la santé, se lever, balayer, ça ne demande pas que quelqu'un d'autre puisse t'aider à le faire.
Absolument.
Donc, peut-être c'est organiser, trouver le matériel, trouver également un moyen pour qu'on puisse évacuer les ordures qui sont là-bas.
C'est sur ce cri de cœur que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis, fidèles auditeurs. Vous pouvez la réécouter sur nos différentes plateformes sociales. La partie technique a été assurée par Adjaratou Traoré et c'est avec grand plaisir que je l'ai présentée. Je suis Lala Diarra Touré. Bonne fête de l'Aïd El-Fitr à toute la communauté musulmane.